cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe, le 3 mai 2001 à Saint-Jodard.
Il y a une petite question. Quelle différence fait-on entre l'adoration chrétienne et l'adoration humaine ? On dit que l'adoration chrétienne consiste à adorer avec Jésus à la croix. Peut-on dire aussi qu'il y a une adoration envers Jésus parce qu'il nous donne une nouvelle vie ? Sûrement. J'adore Jésus parce qu'il est Dieu. Et il nous donne une nouvelle vie, puisqu'il nous donne par sa grâce une vie éternelle. J'adore Jésus parce qu'il est Dieu, donc il est créateur comme verbe. Et sa personne, c'est le verbe incarné, mais c'est le verbe, c'est la personne qu'on adore. On reconnaît qu'il est tout pour nous. Qui me voit, voit le Père. Donc, il est tout pour nous, comme le Père. Alors, c'est sûr, on doit ajouter que l'adoration chrétienne regarde Jésus aussi. Elle regarde premièrement notre adoration avec Jésus par rapport au Père. Ce regard nouveau vis-à-vis du Père. Alors là, il faut aussi bien préciser. Parce que l'adoration humaine regarde Dieu comme Père, créateur de mon âme spirituelle et comme celui qui veut conduire mon âme spirituelle vers son bonheur. Le bonheur d'une âme spirituelle ne peut être que la contemplation de Dieu. Et la contemplation de Dieu, telle que nous pouvons la réaliser indépendamment de la grâce, est une vraie contemplation de Dieu. Mais elle a un mode très pauvre, puisque je connais Dieu et en même temps j'ignore. Je sais qu'il est, je sais qu'il est créateur, je sais qu'il est infiniment bon, et j'ai une connaissance analogique de Dieu. Ce qui fait que la négation est plus forte que l'affirmation, plus certaine. Et j'adore. Donc, il y a un poids dans l'adoration humaine qui regarde le néant dont je suis sorti. Et que c'est Dieu qui volontairement et d'une manière purement gratuite m'a créé. Dans l'adoration chrétienne, j'adore mon Créateur et mon Rédempteur. J'adore Dieu qui répare la faute, pardonne la faute et m'appelle à vivre de l'intimité avec le Père. tout en reconnaissant qu'il est mon créateur. Donc il y a toute l'adoration humaine est présente dans l'adoration chrétienne et elle est dépassée par l'amour. C'est l'enfant qui adore son père. Qui adore son père créateur et qui adore son père qui lui promet le bonheur éternel. Lui promet cette vie contemplative éternelle que lui-même possède parfaitement et qu'il nous communique. Il y a donc, voyez, un prolongement de l'adoration dans une vie d'amour. L'adoration comme acte d'adoration qui consiste à regarder Dieu comme créateur est dépassée par la charité, par la foi. Je vois que si Dieu m'a créé, il m'a créé pour être enfant de Dieu. Il m'a créé pour que je reconnaisse mon Créateur comme mon Père et que je sois tout proche de mon Père. Le ex nihilo est dépassé par l'unité de l'amour. Mais il existe toujours. Donc, il y a dans l'adoration chrétienne un prolongement de l'adoration humaine, un prolongement dans l'ordre de l'extension et un prolongement dans l'ordre qualitatif de profondeur. Et on pourrait rattacher à cette adoration chrétienne toute la liturgie chrétienne. Il y a une liturgie païenne, humaine, qui consiste à reconnaître que Dieu est mon Créateur. Cette liturgie serait centrée sur l'adoration, alors que la liturgie chrétienne est centrée sur l'amour, en impliquant l'adoration. Je reste toujours des créatures de Dieu, tout en étant son fils, tout en étant son enfant. Donc, il faut comprendre que cette adoration chrétienne s'étendra dans la liturgie. Toute la liturgie devrait être imprégnée de l'esprit d'adoration. C'est même ce qui caractérise l'adoration chrétienne, ce qui caractérise la liturgie chrétienne. Vous voyez, en adoration humaine, toute la liturgie doit être imprégnée de l'amour du Créateur, mais en adoration chrétienne, c'est adoration, ce prolongement de l'adoration devient nécessaire. Et toutes mes activités, tout mon travail doit être liturgique. Mon travail qui, on le sait bien, vient achever l'œuvre de la création. Et par la charité, cette œuvre de la création peut être vraiment achevée chez le chrétien par l'adoration et par le travail. Alors le travail liturgique implique deux aspects. Un travail sacré en coopération avec Dieu et un travail humain qui doit être transformé par la coopération. À côté de cette adoration chrétienne, de cette liturgie chrétienne qui s'empare de tout mon travail, travail intellectuel et travail théologique. Il y a une théologie naturelle, humaine, ce que nous voyons en philosophie, et il y a une théologie chrétienne. Voyez, et bien, c'est une coopération à l'acte créateur, c'est une coopération à l'acte qui nous révèle et nous sauve, qui se fait de double façon. La grâce présuppose la nature. Et vous voyez, pourquoi la plupart du temps, notre liturgie n'est pas facilement vitale. C'est parce que, je crois, nous n'avons pas assez le sens de l'adoration humaine. Nous prétendons, et beaucoup de personnes prétendent, que la vertu de religion ne peut exister qu'au point de vue chrétien. C'est faux. Il y a une vertu de religion qui est humaine. Et il y a une adoration qui est humaine. Parce que je peux découvrir la nécessité de poser un créateur. Et humainement. Et dès que je découvre qu'il y a un créateur, je dois répondre à ce créateur. Et j'y réponds premièrement par l'adoration. Et en second lieu, par la liturgie. Et la liturgie humaine, c'est tout mon travail humain qui est offert à Dieu. Et qui est offert à Dieu pour achever, compléter la création. Et ce travail a quelque chose de sacré. Parce qu'il est uni à l'œuvre créatrice de Dieu. Et alors, la liturgie chrétienne vient compléter cette liturgie humaine. Voyez, mais comme la grâce présuppose la nature, quand on n'a aucun sens de la liturgie humaine, quand on n'a aucun sens de l'adoration humaine, l'adoration chrétienne n'a pas son enracinement qu'elle devrait avoir. Et la liturgie chrétienne n'a pas son enracinement qu'elle devrait avoir dans l'homme. Je crois que c'est très important de rappeler ça. Parce que très facilement, la grâce glisse sur nous comme l'eau glisse sur le canard. Il n'y a pas d'enracinement. Et l'enracinement, c'est nous. C'est l'eau. Il faut naître de l'eau et de l'esprit. Et pour naître de l'eau et de l'esprit, il faut donc qu'il y ait humainement quelque chose qui prépare la grâce. Si vous n'avez aucun sens de l'adoration humaine, aucun sens de liturgie humaine, l'adoration chrétienne et la liturgie chrétienne passera, glissera et ne s'enracinera pas. C'est très net, ça. Oui, dans un monde qui se laïcise, comme notre monde, tout ce point de vue de l'adoration chrétienne et de la liturgie chrétienne risque très très vite d'être comme artificiel. Les hommes n'arrivent plus à comprendre que la liturgie chrétienne sanctifie l'homme, qu'elle touche à une dimension très profonde de l'homme. Reconnaître, humainement parlant, que l'homme est une créature capable de coopérer avec le Créateur. On n'est pas instrument de la création, mais on peut être instrument de l'épanouissement de la créature vers Dieu par l'adoration et par la liturgie. Donc il y a là quelque chose qui, dans notre monde, est tellement loin. Puisque on voudrait faire un homme qui soit athée, qui soit uniquement dans sa propre réflexion d'homme, complet, achevé. Et quand la grâce est donnée à ce genre d'homme laïque, la grâce risque de passer sans s'enraciner. Parce que pour que la grâce s'enracine, il faut l'eau et l'esprit. Et l'eau, c'est le travail humain. Alors vous voyez, il y aurait beaucoup là à dire et à essayer de comprendre. Oui, la liturgie chrétienne et autre en Afrique et chez nous. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que de temps en temps, on a une liturgie africaine. Elle est autre. Comment est-elle autre? À cause de la grâce chrétienne qui est autre? Ou à cause de l'humain? Elle n'est pas autre à cause de la grâce. La grâce chrétienne unit le juif et le non-juif. La grâce chrétienne unit quelqu'un de culture européenne, quelqu'un de culture africaine. Mais la culture africaine et la culture européenne seront toujours distinctes. Et donc, la liturgie sera distincte. Il n'y a rien de plus désagréable de voir qu'on imite de l'extérieur. Aussi bien l'Européen qui existe l'Africain que l'Africain qui imite l'Européen. Alors, la liturgie religieuse. Ah. Est-ce que le point de vue religieux, est-ce que l'adoration d'un Africain et l'adoration d'un Européen doit être la même? Où y a-t-il la différence? Et en quoi est la différence? L'adoration, dans ce qu'elle a de profond, reconnaître Dieu créateur et reconnaître qu'on est une créature de Dieu, c'est la même. L'âme de l'Africain et l'âme de l'Européen est la même du côté de Dieu. Qu'est-ce qui les diffère? C'est le corps, c'est l'individu. Et là, il y a la diversité à l'infini, parce qu'en Europe, il y a une très grande variété entre l'espagnol et le nordique, Suède, Norvège, Lituanie. Très grande diversité. Alors, la grande diversité se traduit dans la manifestation, dans le langage et dans la manifestation. L'unité existe au niveau humain dans ce qui spécifie l'adoration. L'adoration est spécifiée de la même façon pour l'asiatique, enfin produit. C'est la même, on va juger contenu, mais c'est différent dans la manifestation. Alors, vous voyez, c'est important ça. Parce que la différence entre la liturgie chrétienne et la liturgie humaine, la différence est dans le contenu et dans la manifestation. Dans le contenu, parce que le païen regarde le fait d'être créé par Dieu et l'adoration chrétienne regarde le fait d'être créé par Dieu et racheté, sauvé par le Christ. Et donc, il y a dans l'adoration chrétienne, quelque chose de nouveau, qui est le même chez l'Africain que chez l'Européen. La manifestation seule est différente. Et par le fait même, l'essentiel est commun. Il y a une diversité, j'allais dire, il y a une diversité moins profonde chez le chrétien africain et chez le chrétien européen que chez l'Africain tout simple, tout court, et l'Européen tout court. La grâce chrétienne est facteur d'unité dans le Christ. Et comme le point de vue chrétien est substantiel, la finalité est la même. Le facteur chrétien apporte une unité plus grande que la diversité, beaucoup plus grande. Et c'est en ce sens qu'il y a une liturgie chrétienne. Et cette liturgie chrétienne est plus une que variée. Le facteur d'unité l'emporte sur la diversité. Même s'il y a langue vulgaire, et ça, ce serait très intéressant à creuser, à bien voir. Les principes jouent différemment. Mais le ferment chrétien est quelque chose d'extrêmement fort pour unifier. Il y a une diversité au point de vue manifestation, c'est sûr, mais il y a une unité plus profonde. Après l'adoration, il faut regarder en éthique chrétienne le rôle de l'obéissance, qui prend une valeur énorme. Aristote, c'est une référence philosophique intéressante. Aristote, quand il parle de l'obéissance de l'enfant et de la femme. Il montre que l'homme, arrivé à l'âge d'homme, 40 ans, 35 ans, 30 ans, n'a plus à obéir. C'est intéressant de voir ça. Si ce n'est une obéissance politique par rapport aux lois politiques. Au fond, c'est peu de chose. Hein. L'obéissance du citoyen, payer ses impôts avec toutes les tricheries qu'on peut faire, on voit très bien. C'est une obéissance très, très lointaine. Alors que pour le chrétien, l'obéissance devient quelque chose de primordial. Et dans la mesure où le point de vue chrétien disparaît et qu'il n'y a plus que le point de vue national et le point de vue humain, laïque, dans le point de vue humain, le point de vue laïque, parce que on pourrait dire qu'il y a des niveaux différents. Le point de vue humain aristotélicien implique la religion. Le point de vue humain d'aujourd'hui, européen, n'est plus que laïque et n'implique plus le point de vue religieux. Et l'homme devient de moins en moins gros. Il laisse tomber la vertu de religion. Et c'est l'homme laïque, et c'est le progrès. Il faut voir ça. C'est très important. Et c'est très clair pour la question de l'obéissance. Et pour la question de l'adoration, c'est encore plus clair, puisqu'elle est supprimée. La laïcité française supprime l'adoration. C'est pas humain d'adorer. Et on rencontre ça dans sa vie. Là, il faut être farouche. Il faut sauver l'homme au-dessus du point de vue, des points de vue des partisans politiques. Adorer, c'est humain. Obéir, c'est humain. Vous comprenez ? La querelle actuelle entre la vie religieuse et les sectes, tout est autour de l'obéissance et de l'adoration et de la foi. Parce que la foi, c'est une obéissance intellectuelle. C'est l'intelligence qui obéit. Et c'est pour ça que c'est si projeté. Il est évident qu'en terre chrétienne, l'obéissance prend une valeur tout à fait particulière. Jésus est mort dans l'obéissance. Donc la source de la vie chrétienne jaillit de la mort du Christ et donc de l'obéissance du Christ. C'est sûr que l'obéissance du Christ à la croix est une obéissance très particulière, où l'amour prend une très grande importance, mais c'est dans l'obéissance qu'il est mort. Alors, essayons de comprendre pourquoi l'obéissance de la croix a été choisie par le Père comme le grand moyen de nous sauver tous. Ça fait partie de l'éthique chrétienne, ça. Jésus est mort dans l'obéissance au Père. Jésus aurait pu nous sauver en travaillant avec Joseph. Le cœur de la vie chrétienne aurait été le travail du charpentier. Et par le travail du charpentier, tout autre travail du fer, de l'acier, la taille de la pierre. Jésus a voulu, et le Père l'a voulu, que le cœur de la vie chrétienne soit la croix. On est né, l'Église est née par la croix du Christ. Il faut bien se rappeler ça. Pourquoi le Père, la très sainte Trinité, ont-elles voulu que ce soit dans l'obéissance de la croix que se réalise le salut. Parce que cela nous fait comprendre ce qu'il y a de tout à fait particulier dans la vie, dans l'éthique chrétienne, c'est que la croix est considérée comme la source. Et la croix fait de Jésus l'agneau de Dieu, la victime d'obéissance, la victime d'amour. Et le corps humain est transformé par cet amour. La vie humaine est transformée par cet holocauste, ce qui fait que Jésus devient vraiment l'agneau pascal, se trouve réalisé parfaitement au-delà du symbole par la réalité à la croix. Pourquoi ? La et sagesse pour le chrétien. Et l'éthique chrétienne est donc marquée d'une façon unique par l'obéissance de la croix. Pourquoi ? Parce que Dieu, par amour pour nous, a voulu que nous participions à l'acte d'offrande, à l'acte de salut, à l'acte du pardon. Jésus, au nom de toute l'humanité, il est homme comme nous, au nom de toute l'humanité, a coopéré avec le Père dans son corps humain. Une coopération, une œuvre commune de Dieu et des hommes. Et cette œuvre commune se réalise dans l'obéissance. Une obéissance radicale qui porte sur la vie humaine, l'offrande de la vie humaine et l'holocauste de la vie humaine. Donc une obéissance radicale ne peut pas aller plus loin que d'offrir sa propre vie par amour pour Dieu. Et si cette obéissance est radicale, est ultime, on peut dire que toute activité humaine s'achève dans la croix. Et toute activité humaine se transforme par la croix. Dieu l'a voulu comme cela. Et je crois qu'il l'a voulu comme ça, par miséricorde pour nous, pour que l'homme coopère avec Dieu. Que le salut ne nous soit pas donné uniquement par la miséricorde de Dieu, et nous n'aurions fait que la recevoir. Dieu a voulu qu'on coopère, et Dieu a voulu qu'on coopère dans le Christ et par le Christ, par l'humanité sainte du Christ, que nous coopérions, et chacun d'entre nous, comme membres du Christ, nous sommes appelés à coopérer pour que le salut soit l'œuvre de la croix, l'œuvre gratuite de Dieu, mais l'œuvre en même temps de l'homme. C'est l'œuvre de l'homme dans le Christ. Et l'œuvre de l'homme d'une façon telle qu'il s'offre et qu'il meurt. Donc une œuvre totale.